Continuer une discussion tout à l'heure au cours du cours de fin de journée. Je demandais à Marie Sauster de venir nous rejoindre pour la deuxième communication. La dernière fois que j'ai vu Maria, c'était il y a quelques années, justement, pour une réunion de l'Assemblée de l'association. Et elle allait être chargée, je crois, des archives. Hein, pour un premier examen, je crois. Et nous allons donc nous faire part aujourd'hui de sa découverte, je suppose, dans cette documentation, puisque sa communication concerne un certain nombre de textes d'Henri Corbin, des années 30.
Voilà.
La parole. Pour un quart d'heure, 50 minutes,
je vais essayer de te rendre visite à vous, mais j'ai eu en parlant.
D'abord, je vous ai excusé pour les parler, parce que ça fait désormais 5 années que je ne parle pas, ça fait déjà 5 années que je me viens en France et que je ne parle pas français, donc je vous ai excusé si je ne suis pas très clair. Alors, l'idée de mon exposé, c'est de démontrer que le fil rouge de la réflexion combinée est la personne et toutes les implications autour de sa signification. J'ai choisi pour cela quatre moments de réflexion. Le premier, c'est un texte de 1927 que j'ai appelé ma France. C'est un brouillon qu'on a découvert en travaillant aux archives. Que nous avons retranscrit. Merci aussi à M. Lory qui m'a aidé à comprendre l'écriture de M. Corbin qui n'était pas compréhensible. Le deuxième moment, c'est un groupe de trois articles parus dans le sommaire du 1931 jusqu'au 1933. Le troisième, c'est un autre groupe d'articles parus dans les Kekmunk depuis 1932 jusqu'au 1934. Et le dernier, c'est un autre texte brouillant, et c'est la conférence sur l'entité différente qui Corbin a tenue en Allemagne, à l'Université de Berlin, en 1936. Mmh. Je trouve dans la pensée de Corbin quatre mots-clés. Personne, dialogue, destin et responsabilité commune. Ça peut être un paradoxe, mais j'utilise un texte du 1977 qui est de la théologie apophatique comme un antidote du nihilisme, publié dans le paradoxe du monothéisme. Je trouve l'un des plus beaux textes de Corbin, parce que je trouve que là, Corbin tire un peu le fil, si je peux dire, de sa pensée. Ici, la personne est l'élément médiateur entre les civilisations orientales et occidentales, dans les absences géographiques et spirituelles. Un dialogue est surpassé parmi les jets et les tout, parce qu'il y a la conscience d'un instant et d'une responsabilité commune. Dans cet article, le texte de Corbin est que la tragédie du monde occidental est la perte de la dimension spirituelle de la personne, dimension constitutive de la personne même. Il s'agit de la perte de l'autre, c'est-à-dire de la dimension verticale de la personne, du pôle céleste. Cette nécessité de redécouvrir la dimension spirituelle de l'homme est un thème déjà présent dans les textes courbiniens des années 30 que nous verrons analyser. L'expression de la perte de cette dimension spirituelle porte un nom Corbin parmi les intellectuels non conformistes des années 30, c'est-à-dire parmi ces jeunes caractérisé par un sentiment d'angoisse commune au sujet de l'homme et qui lutte, tout à leur manière, contre l'aliénation et la spoliation croissante de l'identité profonde de l'homme même. Corbin participe à cet idéal commun, mais aussi, je trouve, individuel, le combat pour la personne, qu'on croit ira devenir le combat pour l'ange, c'est-à-dire le combat pour l'homme. Ce combat est le destin personnel et commun de ceux qui ont pris parti au covenant, au potentiel. Donc, on va passer au premier texte qu'on a appelé maintenant. Cet Ce texte marque le détachement du séminaire catholique qui Corbin fondait en 1937. Maxence a pris conscience de la liberté de vivre sa propre foi sans intermédiaire qui décide à sa place. Ce texte souligne le détachement du catholicisme qui seul peut retenir la vérité et le message divin. Pourtant, Maxence demande de participer au sacrement. Et la réponse est négative. Maxence se rebelle et dans un deuxième temps, la rébellion devient désillusion. Je cite Corbin, Renan a écrit, le catholicisme est une barre de fer. On ne discute pas avec une barre de fer. Fin de citation. Et toujours une nouvelle conscience, et je cite encore, j'ai le sentiment intime de la présence de Dieu. Je l'ai trouvé. Je l'ai pris de la banalité. La bourgeoisie humaine. Toute ma vie est induite dans l'effort pour la progression spirituelle. Mais je n'ai pas besoin de vous autres pour cela. Dieu n'est pas un juge qui pèse nos actes dans une balance. Il n'est pas un père. Vous voyez, c'est bien fini. Plus rien ne me retient. Je suis libre comme ces nuages qui courent dans le ciel. Les vents me portent vers mon destin. Je le ferai sans vous. Mais lui rencontre, et voilà l'autre qui arrive, bouleverse son âme. Il rencontre, dans cette situation, un camarade de sa même philosophie. Ce suffit d'une poignée de main pour établir une communication et un échange d'intentions. Maxence a la sensation d'être seul sans être seul. Il retrouve un sentiment d'union. Seulement des âmes similaires peuvent se comprendre. Mais ces âmes peuvent parcourir les chemins vers elles-mêmes seulement dans la solitude. Et c'est cette solitude qui crée la communion. On va maintenant passer au deuxième groupe d'articles qui ont paru dans les semaines. Les semaines, c'est l'organe de diffusion de la Fédération française des associations chrétiennes d'étudiants, associations d'étudiants protestants, dont Corbin fut aussi le président du 1930 jusqu'au 1933. Les trois articles sont la Fédération allemande à Kaub de novembre 1931, à propos de l'État de mars 1932 et le témoignage à Kierkegaard de décembre 1932. Les termes communes commencent hein, par la signification d'être chrétien à cette époque. Il s'agit pour Corbin de la nécessité de retrouver l'existence dans son ouverture à Christ. Seulement l'existence qu'il rencontre et qui porte avec elle-même le Christ est allée vers les autres. Et les autres sont des frères, pas des objets à posséder. C'est le paradoxe de l'existence qui cherche Christ. Elle ne peut affirmer sans nier. Parce que Dieu n'est pas un objet de cette pensée. C'est Dieu qui s'adresse à l'homme, l'homme est là comme un veilleur, comme celui qui attend l'interrogation posée par lui. Et cette attente de la parole est ouverture à l'avenir qui est à venir de Dieu. Mais dans la conscience du séléniste, l'homme doit oser le face-à-face avec Dieu, c'est-à-dire sa mort spirituelle. La Fédération allemande à Kaub est un convenu du 40e congrès général du 1931 du mouvement chrétien d'étudiants. Il s'agit de la rencontre parmi, et je vais citer Corbin, d'étudiants chrétiens réunis spécialement pour mettre en commun l'expérience de leur christianisme, en tant qu'elles mettent en question leur existence même. La question qui guide la rencontre est la signification d'être chrétien et ethnique dans la crise des organismes politiques et sociaux. L'homme moderne a été réduit en objet. Mais cela ne suffit plus. Il commence à fugir une nostalgie de rédemption, un sentiment nouveau envers nous-mêmes et envers les autres qui porte à une décision de responsabilité. Léger peut aller vers les plus sans réduire les plus en objet, seulement s'il porte avec soi-même les plus, c'est-à-dire l'autre. Il s'agit de l'existence qui fait propre le mode d'être du chrétien. C'est-à-dire de celui qui cherche Christ, de celui qui, chaque instant, est ouvert à l'événement de l'autre. Et l'existence qui cherche Christ rencontre le frère. À propos de Luther, c'est un article sur les commentaires de Luther à l'Épître aux Hébreux écrit par Jean Baroudi en 1932. C'est l'occasion pour rapprocher en passant Luther de Heidegger. L'image de l'homme seul abandonné par Dieu peut être rapprochée de l'existence pour la mort dans la pensée du philosophe allemand. L'homme seul abandonné par Dieu, mais ne sait pas, n'est pas essayé de connaître Dieu. Il s'agit du paradoxe de l'homme évangélique. Condamné à cohabiter avec ses limites, il essaie toujours de les dépasser, de parler de Christ. Et je cite clairement, le paradoxe inévitable consiste donc en ce que parlant de Dieu, les théologiens pécheurs ne peuvent affirmer sans nier. Et que dans la condamnation radicale du monde par la révélation, est transformée la promesse du salut. Les théologiens croyants ne peuvent nier sans affirmer. Sans hésitation. L'homme évangélique fait son expérience de Dieu parce que Dieu s'adresse à lui dans la solitude de son âme. Il est là comme un veilleur, comme celui qui attend. Et son mandat est donc cette ouverture vers la venue de Dieu qui pourtant ne n'appartient pas. Le troisième article, témoignage à Kierkegaard, est dédié à la figure du philosophe danois. Dans la conclusion du précédent article, il y avait une annotation sur le développement de la pensée du philosophe danois en Allemagne, pensée qui se trouvait au cœur de la philosophie des déserts. Selon Corbin, Kierkegaard demande de s'engager pour la reconquête du propre moi, qui peut être retrouvé seulement dans le face-à-face avec Dieu. Même s'il est dans les ténèbres, l'homme ne peut pas ne pas tendre à Dieu. Et c'est là l'héroïsme chrétien. Ce face-à-face est le résultat d'une décision, c'est-à-dire la décision de faire propre le mode de l'existence qui cherche Christ. Mais Christ n'est pas à la fin d'un parcours. L'existence cherche Christ, mais c'est Christ qui arrive. Son événement demande la mort spirituelle de l'homme. Il faut mourir à soi-même pour connaître l'homme nouveau. Le christianisme, à différence de la philosophie, entraîne et interroge cet homme ici, dans sa finitude concrète. Le cogito ergo sum cartésien, avec son dualisme sujet-objet, est ici mis en cause. Il ne faut pas dire penser cet être, mais plutôt croire cet être. Parce que le jeu est toujours sous le jugement de Dieu, et seulement dans cette obéissance, il retrouve sa liberté et sa vérité. On a vu comme dans ces articles, il connaît le nom de Heidegger, même si tout le monde est passé le jeu. En 1931, Corbin traduit Logique métaphysique, traduction assez méconnue. C'est-à-dire qu'il a démenti de l'effacer de sa bibliographie. Mais c'est Coiré, dans son introduction à cet article, qui explique les raisons de cette traduction de Heidegger et la portée de sa pensée. Coiré écrit, et je cite, Heidegger a osé, dans cette époque d'après-guerre, ramener la philosophie du ciel sur la terre, nous parler de nous-mêmes, nous parler en philosophie, des choses très banales et très simples, de l'existence et de la mort, de l'être et du monde. Parce qu'il a pu reposer à nouveau, avec une fraîcheur et une force incomparables, les doubles problèmes éternels de toute philosophie véritable. Qui je suis et qui veut dire être. Et Heidegger est important parce qu'il place l'homme en face de sa solitude, de sa finitude essentielle. Son être pour la mort. Quand l'homme se détourne du monde de l'homme, de l'anonymat, il se trouve face à face avec les néants qui constituent sa véritable existence. Cela lui provoque ici un angoisse. Mais dans la décision d'accepter cette finitude constitutive, l'homme retrouve l'existence dans sa vérité, dans son authenticité. Et justement, la recherche d'un nouveau rôle pour la philosophie, et le centre des articles publiés par Corbin dans V7Monk. V7Monk, c'est une revue fondée en 1931 par Denis de Rougemont, Roland de Coury, Margaret Marie Schmitt et Roger Josephel. Corbin va ici publier quatre articles qui couvrent la période qui va de 1932 jusqu'en 1934. Ces articles s'appellent Philosophes, du novembre 1932, Quand nous réveillerons d'entre les morts, de mars 1933, Philosophie politique, de juillet 1933, et les derniers, c'est-à-dire Notes sur existence et foi, de 1934. La revue s'inspire de la théologie dialectique de Karl Barth. Bernard Raymond, dans son beau livre sur la diffusion de la pensée de Karl Barth en France, cite cette vague barthienne parmi les non-conformismes français des années 30, expression, comme on a déjà vu au début, des sentiments des jeunes pendant cette période. La diffusion en France du Barth et de l'épître aux Romaines est tardive et elle est causée par la diffusion d'un sentiment de rénovation dans les endroits protestants. Pourtant, comme rappelle Raymond, et je cite, les Barthes de 1920, qui découvrent alors et avec retard le francophone de 1930, n'étaient pas encore tels qu'ils étaient devenus au même moment en Allemagne, les Barthes de la démocratie. Robin aussi écrit dans poursuit comme un entretien philosophique paru dans le cahier de l'heure d'Angélier que cette équipe avait confiance en bas pour un renouveau de la théologie protestante, mais qui c'était un amour juvénile. Tôt, il va comprendre que Bach, Kierkegaard et Philosophie ne sont pas suffisants pour faire basculer la philosophie. Il fallait aller plus loin. Mais il faut souligner, de toute façon, que les idées de Corbin étaient de redonner, grâce à Bach, un sens nouveau à la philosophie, en remettant en évidence sa relation avec l'homme réel. Philosophe, elle est créée à tous les travaux dans le cours. La question initiale est, qui signifie pour des coups de sang philosophie, sans se heurter aux vieilles oppositions philosophie-théologie, foi, raison, science, révélation. Ces oppositions sont un faux problème, parce qu'elles sont basées sur une fausse conception de l'homme, c'est-à-dire de léger comme centre du monde et comporteur des catégories. Léger que la raison peut connaître parce qu'elle la réduit en objet, qu'elle fait dominer. En réalité, l'homme est un problème, et je cite, un problème chaque fois nouveau et précis, non point un conseil élaboré, dans lequel on sait d'avance ce qu'il y a, parce qu'il y en a mis tout ce que l'on voulait et tout ce que l'on pouvait. Même s'il y a quand même, je crois. Pas seulement des cartes, mais aussi quand même. L'existence n'est pas un donné, et la décision concrète devant un possible, qui peut avoir lieu chaque instant. L'existence est décision parce qu'elle subit une interrogation. Elle est donc existence dialectique, existence en dialogue, parce qu'elle est interrogée directement par l'autre qui arrive. L'existence est un processus de questions et de réponses. Et pour cette raison, l'homme n'est fait trouver une réponse dans une philosophie ou une théologie déjà fixée. Mais chaque fois, il doit rechercher une réponse qui les regarde directement. Et je cite, il n'existe du moins qu'une relation avec l'étoi. Et c'est dans ce dialogue qu'est la dialectique. Je ne peux devenir réel que par toi. Toi, tu es mon monde réel par lequel j'existe. Mais jamais aucune autorité abstraite ne pourrait me produire à cette rencontre actuelle X et nous. Fin de citation. Le tout est donc le fondement de mon existence. Grâce au tout, le jeu devient réel. Alors, philosophie et théologie ne sont pas opposées, parce que l'on est même point de départ. L'homme concret, l'existence dans son être interrogé par l'autre. On va passer au deuxième article, c'est-à-dire quand nous réveillerons dans ce moment, du 1931. Corbin pose à nouveau la question sur le sens de la philosophie. Comme elle cesse d'être simple des objets et commence à s'interroger sur l'être-là, elle s'entrelace avec la théologie. Corbin parle ici de Kierkegaard et reprend le thème du presque contemporain article paru dans le sommet. Philosopher est un événement de l'existence. L'existence doit se rendre actuelle, c'est-à-dire décidée. L'existence est la tragédie de devoir s'actualiser, de décider soi-même dans la décision et de détruire chaque fois sa détermination. Parce que si elle suscite sa détermination, là, il y a le péché et la trahison de l'autre. En effet, l'autre fait arriver seulement de l'existence et se saisir toujours comme impossible à déterminer. Donc, il faut que l'existence s'actualise et qu'elle se dépouille chaque fois de son vêtement. Les morts sont ceux qui vivent la vie comme fixation, prisonniers de l'homme. Ils ne reconnaissent pas qu'il faut vivre et qu'il faut mourir au monde. La parole seule réveille d'entre les morts et montre la vanité des oppositions humaines. Le troisième article est philosophie grossiste. Et encore, Corbin parle ici des philosophies grossistes comme d'une situation concrète dans laquelle l'homme, dans laquelle se manifeste l'activité philosophique. C'est-à-dire la situation de l'existence de l'homme ici et maintenant. L'existence de l'homme est sous le signe de la croix, parce qu'elle meurt chaque instant pour naître dans et avec la parole. Corbin remet ici en discussion les conseils de tradition, et il parle de la signification de l'histoire et du rôle de la parole dans l'histoire même. Il ne faut pas entendre la parole de Dieu dans l'histoire, mais chaque instant dans notre vie. Léger ne vit pas grâce à sa détermination passée. Léger n'a pas un passé, parce que s'il a un passé, on le considère comme faisant partie d'une histoire conçue comme un flux continu de causes et de conséquences, qu'il soit positive. Le passé n'est pas la cause de notre présent, le présent n'est pas le résultat des choix passés. On a déjà vu comme l'existence est l'exclusion concrète. Décision en face d'une question qui nous est posée par la parole qui arrive. La théologie même est ici en discussion. Elle doit combattre contre la satisfaction qu'elle éprouve quand elle parle de Dieu. Il faut que la théologie parle de Dieu, mais elle ne peut pas s'arrêter sur la détermination de ses discours. Sinon, elle va perdre Dieu. Pour cette raison, elle est dialectique, pas dans les sens de l'âme. Parce qu'elle est dialogique, parce qu'elle est interrogée par la parole chaque instant. Le quatrième article, notre existence et quoi? Même ici, le point de départ est encore pourquoi parler de l'existence, en philosophie et en théologie, sans soumettre l'existence au principe de la raison théorique. On ne peut pas comprendre Dieu et le monde sur la base du principe de causalité, mais, et je cite, c'est seulement si l'on se fait interpeller par Dieu dans sa propre existence que cela a un sens parler de Dieu. Fin de citation. Avec l'existence dialectique, l'existence en dialogue finie, je cite en citant, l'existence solitaire du moi dans le monde. Fin de citation. Et grâce à l'éruption de la parole, l'existence a une histoire. Parce qu'elle choisit soi-même comme devoir être, comme toujours à déterminer. Donc, elle a aussi pouvoir être. Ici, on retrouve Heidegger. La philosophie de l'existence répond que l'extrême pouvoir être de l'existence est la mort, et qu'elle est vraiment libre quand elle accepte ce pouvoir être. Elle est libre pour la mort, et de cette modalité d'interpréter son être dans le monde, de faire dépendre son futur. Par contre, le devoir être de l'existence chrétienne est l'action libre de se soumettre à Dieu, l'action de se mettre à l'écoute de la parole qui arrive chaque instant et de nouveau dans l'existence. Mais on ne peut pas s'installer dans la parole. Il faut chaque instant l'écouter et l'abandonner pour ne pas trahir l'autre et son message. Chacun est seul en face de la parole dont il devient responsable. Et je suis encore combat dans le monde. C'est par cette parole que nous avons seule que notre relation avec les créatures devient réelle, vivante, signifiante. Le monde de loi abolie devient visible le monde de similitude. Les créatures ont alors chaque fois des symboles qui annoncent, car toute créature a été créée par la parole. Le 1934 signe pour Corbin l'abandon de la théologie de l'éthique de Barthes. Pour Barthes, la philosophie ne fait rien dire sur Dieu. Pour Corbin, la philosophie est l'une des façons de parler de l'existence bouleversée par la parole. D'octobre 1935 jusqu'en 1936, Corbin est encore en Allemagne, détaché par la BNF pour un séjour à l'Institut français de Berlin. Ses travaux à poursuivre en Allemagne portent sur l'étude du manuscrit de Thora Bari et sur l'orientation de la philosophie de l'existence dans l'ensemble de la pensée allemande contemporaine. À cette période appartient la conférence sur l'antique du Perron donnée à l'Université de Berlin en juin 1938. Antique du Perron, c'est un orientaliste français vécu pendant le XVIIIe siècle. Il a été caractérisé par un grand amour pour les langues orientales. Il s'embarque avec la Compagnie française des Indes à l'âge de 23 ans. En Inde, il découvre la culture et les traditions des Parsis et commence à étudier leur texte sacré, la Veda, dont il avait trouvé des fragments en France. Inconnu parmi les milliers de savants Jésus Corbin qualifiés cultivés, en citation, la personnalité de l'orientaliste français est plus généraliste, dense, que Jésus Corbin, son isolement hors des cadres officiels. Fin de citation. Pour suivre le désir de connaître les langues orientales, il a été obligé à partir en Hollande. L'étude de ces langues n'avait en fait plus sa place en France, si je suis encore Corbin, depuis que le protestantisme n'avait plus, officiellement du moins, en France un droit reconnu à la vie. Fin de citation. Une thématique qu'on retrouve souvent dans Corbin revient même dans ce texte, si je suis encore. Que le sens spirituel de la France ne s'identifie pas avec les grands courants officiels et majoritaires, qui présentent que la plupart du temps les travaux de synthèse ou les reportages à vie. Fin de citation. Qui nous montre clairement l'attitude des Corbin, montée des différents, un petit différent, de vouloir raconter une autre histoire, démontrer qu'il y a toujours une autre voie, ouverte pour la plupart des fois, par des personnalités presque inconnues, mais d'une sorte spirituelle unique. Après la découverte des fragments vaines, que personne n'était capable de découvrir, jusqu'à un propre vaine, Antiquité déclare entreprendre les voyages des Indes orientales pour débrouiller les archives du germe humain. Fin de citation. Il décide que les secrets des Indes est aux Indes. On peut retrouver ici un parallélisme avec la rencontre de Corbin avec la sagesse orientale de Thora Bari, grâce à Lima Simone. Enquêté du Perron et Corbin, intéressés tous les deux par les âmes orientales, tous les deux à la recherche de quelque chose pas encore définissable, mais sûrement hors de cadre officiel. Enfin, tous les deux ravis pour une rencontre. Des mots, un livre qui cache les désirs spirituels de commencer une quête. Et je cite ici Corbin encore, dans les projets de cette existence, sur son unique, sur son possible, nous voyons ainsi se configurer, en dehors de tout compromis, de toute hésitation, un destin personnel qui règle seul sa loi intérieure. Et quelle est cette loi? Une passion de la connaissance pour elle-même, une passion théologique si personnelle, que si elle cherche dans cette découverte inouïe en témoignage à sa propre foi, elle se pousse dans les voies qui ne tiennent compte ni des dogmes officiels, ni des autorités établies. Sans les citations. Mais quand Antiquité rentre en France avec, je cite encore, 180 manuscrits des échantillons de nombreuses langues de l'Inde, la Veste complète et les premiers feuillets de Veda, sans les citations, il est taxé d'imposture par l'examen de la Royal Society of London. Il faudra attendre 1834 avec la traduction de Bournemouth pour que, et je cite encore Urbain, l'authenticité et l'antiquité restent des feux de moindre signification. Malgré cela, il passe le reste de sa vie dans une sorte de spiritualité ascétique, avec une convention soutenue par ses mots. Et je cite encore Urbain, être libre librement, et c'est pour cela complété par celle-ci. Il n'y a de libre que les pauvres volontaires. Fin de citation. Pour Corbin, un petit différent est un maître spirituel, comme nous avait confirmé il y a désormais 10 ans M. Jambet. En pionnier, il allait là où personne n'avait pensé trouver une réponse, forcé seulement par le sentiment qu'il y avait quelque chose d'autre. Enquêté du Perron a recherché un rapport direct avec les origines, avec les livres. Comme Enquêté du Perron, Corbin est devenu un historien, mais un historien à sa manière, c'est-à-dire un historien herméneutique, avec la conscience que le passé ne peut pas être conçu comme un objet, car le passé est seulement dans la présence qui est décidant de parler de ce passé, devient responsable et lui donne un avenir. La présence réactualise le passé. De la façon d'un petit différent au thème du dialogue dont on a parlé au début. Le dialogue est ce passé seulement parmi des personnes qui sont, et je cite Corbin dans l'article de 1977, des personnes qui sont partenaires d'un même destin. Dans l'article la dialectologie apostatique comme un antidote du nihilisme, contre les affirmations de Georges Balin, Corbin soutient que ce n'est pas le principium individuationniste, la cause du nihilisme de la civilisation occidentale, mais proprement son manque, la perte de l'individu. La tragédie du monde moderne est la mutilation de l'individu qui a perdu sa contrepartie spirituelle, sa relation avec la verticalité, avec le pouls céleste. À cause de cela, l'individu est condamné au monologue. Et je suis commun, mais un occidental, sans besoin même qu'il soit un philosophe ou un gnostique, se demandera, et si c'était l'inverse? Si la souffrance avait pour origine la mutilation de l'individualité spirituelle, autrement dit, à la tragédie de la mutilation de la personne, on répondra non point avec la suppression du vide, mais par les combats des fils de la lumière contre les puissances des ténèbres. Voilà un écho du compte rendu du 1931 que nous avons vu au début, la Fédération allemande à Cologne, où Corbin souligne que, je cite, si vraiment alors nous avons le sentiment que des forces puissantes s'opposent déjà dans le monde au dynamisme de l'Évangile, il nous faut opter. Cette conscience doit nous donner même temps qu'une sincérité rigoureuse envers nous-mêmes, une charité capable de surmonter le chaos du monde actuel. Le destin personnel est le choix de combattre pour l'autre, et cela veut dire combattre pour soi-même. Il s'agit ici du moment de covenant, du pacte en ciel parmi les hommes de lumière, qui vont jurer fidélité à Dieu et en même temps aux autres anges qui sont là avec elle. L'autre est, avec sa différence, constitutive du moi. L'homme ne peut pas être sans son ange, son rabe. Dieu et tout sont le pôle de l'unicité qui est leur relation. Et je cite encore Romain, les héros affrontant ensemble une même tragédie, dont l'origine et le jeu ne sont point que la personne respective serait une négativité à absorber, mais une positivité à conquérir. Et encore, chute et libération sont une grande acte de cette tragédie. Mais libération ne veut pas dire abolition. Libérer l'être individuel, c'est restaurer son individualité, sa monadicité plénaire et authentique. C'était restaurer la vérité, non point la dénoncer comme illusoire. La personne doit réaliser son intégralité, et je cite encore, l'ego intégral, la personne intégrale, c'est là. Cette uno, ambo, cette dualité. Car pour être intégrale, elle doit comporter les pôles au monde céleste et les pôles au monde terrestre. Grâce à une superbe réflexion sur la théologie négative de Jacob Böhm, Corbin arrive à dire que la personne intégrale est l'ente déterminato omnis modo, c'est-à-dire l'être entièrement déterminé. Et cela rend possible un dialogue parmi des personnes et pas parmi des hommes. Dit-il encore, ce n'est donc pas une seule existence, portion dans la divinité ou dans la collectivité qui est née là, l'incitation illusoire, ce n'est pas par l'abandon de ce qui est défini comme une personne et repose dans l'être, mais c'est au contraire, en réalisant ce qu'il y a de plus personnel et de plus profond, que l'homme remplit sa fonction essentielle, qu'est sa fonction théophanique, exprimée Dieu, être les théophores, les portes Dieu. Fin de citation. Le destin personnel est ici menacé. Sans la verticalité, sans sa dimension haute constitutive du moi, il y a, et je cite encore, la rupture du pacte, de l'engagement réciproque. Alors, toute la relation entre Dieu et l'homme se trouve altérée. Ils ne sont plus solidaires, répondant l'un de l'autre dans un même combat. Ils se dressent face à face comme le maître et l'esclave. L'un des deux doit disparaître. Si l'un des deux pôles disparaît, l'autre devient proie d'une île. Et je cite encore, alors c'est Dieu personnel qui ne pouvait mourir pas que pour la trahison de son répondant, donne son vrai sens à l'aventure humaine.
Merci. Ça tombe bien, ça termine exactement.
Pour exposer ces séances très stimulantes basées sur des textes très peu connus, de la jeunesse, si je puis dire, de Henri Corbin. Il nous reste un petit peu de temps pour quelques questions, oui, je pense, quart d'heure au moins. Les questions peuvent porter également sur l'intervention de la fin de la matinée, hein, puisque concerné. Corbin et Gilbert Durand n'ont pas eu le temps de discuter sur ce sujet donc présenté par Manuel Quinon ce matin. Qui veut commencer? Oui.
Sur l'exposé de Gilbert Durand, le lien entre Corbin et Gilbert Durand, il est manifeste, parce que Gilbert Durand a fait sa thèse avec Bachelard, qui était un grand ami de Jung. Et Jung était ami de Corbin, et puis ça le laissait régulièrement depuis des années à Eranos. Donc il n'y a pas de chercher, il y a 80 heures, donc c'est le lien direct et manifeste. Il est aussi de connaître la santé.
C'est moi.
C'est bon, j'ai pas envie.
Oui.
Eh bien, Gilbert Durand, ayant fait sa thèse avec Bachelard, qui est un très grand ami de nous, et grand artiste, psychanalyste du peuple, psychanalyste de l'air, des tout ça, c'est bien matin avec Jung qui étudiait l'alchimie à ce moment-là, qui était à la projet de son œuvre, et qui allait bientôt mourir. Et donc, puisque Jung et Bachelard se connaissaient très bien, que Corbin et Jung se réunissaient avec d'ailleurs Louis Massignon et d'autres personnalités aux réunions d'Eranos, donc le lien est immédiat, il n'y a pas besoin de chercher
non,
le chemin doit être
c'est direct. Le lien n'est pas ici, il n'y est pas, parce que l'usage que fait Bachelard de Jung n'est pas un usage jungien, c'est un usage très ouvert. L'usage que fait Gilbert Durand de Bachelard et de Jung est aussi pas du tout orthodoxe. Donc il est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de continuité que vous indiquez, on n'existe pas en fait.
Il y a au moins un lien pointillé, ce n'est pas l'absence de lien. Il y a au moins des pointillés qui conduisent à
oui,
une communication très facile que ce que vous avez cherché, je ne sais pas où. Excusez-moi de bien.
Non, vous faites bien. que je veux dire, c'est que ce lien n'implique pas une conception du monde. Et moi, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a des affinités cosmologiques, c'est-à-dire des grandes options ontologiques qui portent sur la nature de l'homme, la nature de la nature, la nature de la divinité, etc., entre Corbin, Ibn Arabi et Gilbert Durand. Si maintenant j'essaie de mettre dans ce puzzle, comme indiqué Jung et Bachelard, ça ne colle pas. Parce que je ne peux pas rétablir la vision du monde, parce que premièrement je ne la connais pas très bien, la vision du monde de Jung, et qu'ensuite si je m'intéresse à la vision du monde de Bachelard, il ne me semble pas qu'il y ait des thématiques gnostiques comme c'est le cas chez Ibn Arabi, Corbin et Durand. Donc ça, je pense que c'est un point de vue un peu superficiel.
Merci, monsieur. Oui, vous avez cité sans jamais les traductions. Oui. Dans la première édition qui a été publiée chez Cérin, il y a un chapitre consacré à la maçonnerie. Oui, ça s'appelle Homo Latinus. Oui. Alors, paradoxalement, alors qu'on continue à s'intéresser à la maçonnerie, ça n'a pas été repris dans des éditions ultérieures publiées par France.
Non. Non. Ça a été repris dans un petit ouvrage de Durand paru à la fin des années 90. Sur Joseph de Maistre. Mais effectivement, ça n'a pas été repris dans l'édition 79 et dans la troisième édition, c'est plus de sélection. Il semble, mais c'est assez, enfin, il faudrait que je vérifie, il semble que Durand disait, il semble avoir lu quelque part, si vous préparez, si vous voulez conserver cet article pour le publier ultérieurement.
Est-ce qu'on a le rapport de thèse de Bachelard ?
Non, alors, Durand a commencé sa thèse sous la direction de Bachelard, mais il ne l'a pas soutenu avec Bachelard. Oui. Parce que Bachelard, en fait, s'est retiré de l'université juste avant la soutenance du thèse de Durand. Ce qui fait qu'il a soutenu avec le roi Bourand.
C'est autre chose.
Très différent.
Ouais. Oh. Non, mais c'est intéressant. C'est très intéressant de savoir que Bachelard n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche de Durand. Il n'y a aucune commune mesure entre Bachelard et Durand. Aucune. On n'est pas du tout dans le même monde. Mais... Et on a peut-être un rapport, vu le roi Bourand, son professeur, avec en effet la technologie de roi Bourand, sa description précise, technologique de l'ensemble du monde, qui est tout différent. C'est de l'hyper-empirisme, c'est pas de la rêverie bachelardienne, hélas.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant, hein, pour le coup.
Pas trop méchant,
monsieur. D'abord, nous sommes tous à souhaiter qu'il y ait l'édition la plus complète possible des écrits d'Henri Corbin, disons, des années 20 jusqu'à 45. Ça, c'est, à mon avis, ça s'impose, enfin, d'après ce que vous-même avez lu et l'a révélé, les textes écrits. Rédigé dans les circonstances que vous avez dites, je relève quand même la date de 33 quant au titre « Quand nous nous réveillerons d'entre les morts », ce qui impliquerait, en effet, ce qui d'ailleurs mentionné, la réflexion comparée entre le personnalisme de Corbin, j'ai jamais démenti, et son rapport à l'Allemagne, qui est quelque chose d'essentiel. Il a, dans les derniers entretiens de Lerne, hein, je voulais rappeler sur l'importance de l'école de Marbourg, il y a l'importance, bien sûr, de Karl Levitt, qui est le plus grand herméneute de l'histoire de l'époque de la théologie politique, et il y a, bien sûr, Heidegger. D'où la question que vous poserez, d'après vous, est-ce que la traduction de Heidegger, telle qu'elle est conçue, avec ceci que Heidegger exigeait la présence dans le volume de Gallimard du discours de rectorat, que Druthuysen, Corbin et Malraux ont refusé. Ça, c'est un aspect de la question historique qui est passionnant. Pensant que Heidegger délirait avec Hitler, et qu'il ne s'agissait pas de mettre ça dans le recueil. Insistant, et Druthuysen rentrait à Paris, fuyant l'Allemagne, Malraux, qui est le maître d'œuvre de la chose, et les autres participants chez Gallimard, refusent le discours de rectorat, jugé un peu débile, et Corbin in extremis, mais les passages de la traduction de Zain Nun Sai. Alors j'ai deux questions en fait, pas une. Un, a-t-on retrouvé la traduction intégrale par Corbin de Zain Nun Sai, dont je peux témoigner qu'il a dit qu'il l'avait fait, mais qu'il refusait de la publier pour des raisons qui mériteraient commentaire. Et deuxièmement, d'après vous, est-ce que c'est l'héritage kierkegaardien, barthien, et le passage subtil de Theologia Crucis à Philosophia Crucis qui explique l'interprétation de Heidegger et le choix au total du philosophe catholique Heidegger comme penseur de l'existence, vous en avez donné déjà non, ou est-ce l'inverse? Est-ce que c'est Heidegger qui sert d'instrument herméneutique à Corbin pour passer, disons, du couple Karl Barth Sora-Varby au couple Heidegger-Sora-Varby? C'est vous pensez ça. Oui. Je pense exactement le contraire. Mais c'est très important. Vous avez probablement raison. Je m'en pas dire, vous avez probablement raison. C'est Heidegger qui vient décisif.
Moi, je crois parce que j'aime beaucoup les passages dans les cahiers de l'âme, quand Corbin va dire qu'Heidegger lui donne la clé.
C'est l'année de la mort de Heidegger, je rappelle. Hein. L'entretien. Non, mais quand le texte est fait, quand les textes de l'âme sont faits, c'est sous le choc de la disparition de Heidegger.
Ah là là, je ne savais pas.
Donc il a un regain. Voilà, et il a un regain d'affection.
Ah.
Sauf que la dernière phrase est glissée, hein, Rahmatallah alayhi, c'est-à-dire que la miséricorde de Dieu soit sur lui, étant donné ses nombreux crimes. Bon, ça c'est. mais malgré tout, est-ce que vous pensez que c'est décisif?
Parce que je ne devais pas rapprocher la. Les textes de Corbin à la date de la
mort. Ah, c'est capital.
Ça, je vous assure, je n'avais pas pensé à.
Bah, c'est le choc pour lui, attendez, la mort d'Heidegger.
Non, je n'ai jamais pensé à ça. Mais j'aime beaucoup le passage quand il va dire qu'Heidegger lui donne la clé. C'est-à-dire
oui.
Qui, alors, la clé herméneutique.
Oui, la clavis herméneutique.
C'est-à-dire qu'on comprend sur la base de notre modalité d'être. Et donc, pour les dégâts, on comprend nous-mêmes dans notre authenticité, dans notre être pour la mort. On va aussi voir comment on va comprendre, on se comprend de cette façon, on va comprendre aussi les mondes.
Je vous rappelle qu'il dit dans le même entretien, être pour l'au-delà de la mort.
Oui, non,
donc ça, c'est plus proche de ce qu'il y a avant Heidegger que de Heidegger.
Oui, c'est dans la suite de 1933, dans la théologie de l'Église.
Oui, et il le reprend de 177.
Oui, j'ai fait de côté le texte dans recherche philosophique, qui est la théologie, un article de Corbin qui s'appelle La théologie de l'éthique et l'histoire, que vous avez cité. Là, il va dire, pas être pour la mort, mais être pour au-delà de la mort.
Voilà.
Là, c'est Heidegger, aller avec Heidegger au-delà d'Heidegger. Je ne sais pas si
je vais. Voilà, oui, je suis
d'accord. Donc, Corbin utilise Heidegger, mais il comprend aussi les limites d'Heidegger, mais il l'utilise pour aller.
Pour faire un pas en avant.
Moi, j'ai fait un peu
de
questions. Non, mais...
on arrive à un accord.
Parfait, on a
pris quoi. Vous pouvez éditer en tout cas toutes les œuvres de Corbin jusqu'en 45, c'est-à-dire jusqu'au début de la bibliothèque iranienne, et en tout cas jusqu'au premier Sora-Varby, le fameux Sora-Varby qui est à Istanbul, ce serait une bénédiction.
Moi, je suis plus inquiet quant à 36. Il est en 36. J'ai bien compris. Il est à Berlin en train d'étudier Sora-Varby. C'est-à-dire, il est payé pour étudier des textes iraniens qui, à l'époque, c'est l'époque où on joue Parsifal partout, on estime, où on donne les étymologies de Parsifal en disant c'est non seulement un Parsi, mais bien entendu un Indo-Européen, etc. Alors, qui paye? Moi, je voudrais savoir quand même. Qui paye ses recherches sur Sora-Varby à Berlin en 36? Ah, mais c'est important. C'est important parce qu'il y a une série de gens très passionnants qui ont travaillé à ce moment-là à Berlin et qui étaient des gens passionnants entre les folkloristes de l'époque, que j'ai un peu connu, et qui étaient passionnants et qui étaient des gens peut-être inconscients. Il ne fait jamais allusion en 36 à la moindre à ce qui se passe dans le monde. C'est extraordinaire.
Il bénéficier
et
d'une bourse
en plus, à la bibliothèque nationale. Dont on peut utiliser les textes iraniens. C'est bien. Moi, je suis surpris.
Pour ce que je sais, il avait une bourse de la Bibliothèque nationale de France. Il était détaché par la Bibliothèque nationale.
C'est vrai. Oui, mais il faudrait voir. C'est plus précis que le cas. Non, non, mais c'est 36 vers la fin.
C'était peut-être le Shah d'Iran qui venait de s'installer, Mohammed Pahlavi, qui s'était proclamé Aryamer, la lumière des Aryens, et qui était très pro-germanique. Puisqu'après il a été débarqué, son ami, son fils, Mohamed Reza. Donc peut-être que c'était en sous-main une douce complémentaire de l'Iran, de la nouvelle
Il y a une question, premier rang.
Oui, j'aimerais parler un petit peu de Kouaré, parce que dans votre exposé, vous avez parlé de la préface à la première édition des œuvres de Heidegger, donc la première traduction qu'il a fait, qui a été... laissé de côté, il y avait une préface de Kouaré dans ce recueil-là. Et quand vous citez que Corbin, dans la théologie apophatique, commencé du nihilisme, s'intéressait à Böhm, dans les faits, il cite l'ouvrage de Kouaré sur Böhm. Moi, j'aimerais savoir, à l'époque des années 30, justement, c'est quoi le rapport un peu entre Kouaré puis Corbin, puis quelle est l'influence réciproque de l'un ou de l'autre?
Considérable.
Bon, c'est Jean-Bé qui va répondre.
Non, non, c'est la moitié qu'on sait. Corbin est mort dans les bras d'Henri Corbin. Bon, je dirais que ça ne dit rien quand on joue les bras. Mais c'est absolument considérable parce que, non seulement pour les ouvrages comme l'ouvrage sur Jacob Böhm, mais plus généralement quant à la thèse fondamentale de Corbin, qui est présente dans les études galiléennes postérieures, qui est que toute révolution scientifique dépend d'une révolution métaphysique et spirituelle. Et ça, c'est le point par lequel l'un et l'autre participent. C'est pour ça que je mentionnais l'école de Marmot, du transcendantalisme propre à l'héritage de Cassirer. Et par ailleurs, à celui qui compte le plus, c'est-à-dire Husserl. Il faudrait retracer la lignée Husserl d'un côté, Cassirer de l'autre, Karl Levitt, en France, Coiré, et autour de Coiré, Cogève et Corbin. C'est Cogève et Corbin qui supplaient Coiré quand il part en Égypte. Cogève s'adonne le Hegel bien connu, il met en rapport d'ailleurs avec Corbin, et Corbin, ce sont les études sur Amal qui ont été publiées. Et c'est quelque chose, la fidélité à l'égard de Coiré n'a jamais été démentie. Absolument jamais été démenti, c'est une dimension très, très importante de la formation corbinienne.
C'est lui qui a proposé à Corbin de produire Heidegger.
Oui, absolument.
Puisque c'est Coiré qui avait, j'ai vu dans l'introduction, qui pose vraiment au central le problème de la philosophie. C'est un nouveau rôle pour la philosophie. Et c'est ça l'important.
Mais ça, c'est un aspect qu'on souligne depuis ce matin. Corbin est aussi tributaire d'un certain nombre de personnalités qui le mettent sur la voie de quelque chose. Il y a à la même époque Gilson, mais c'est lui qui le dit, qui lui donne Avicenne. Ce qui, pour un disciple de Karl Barth, quand même, bon, fait des ordres. Bien. Il y a la théologie allemande. Il y a, donc le milieu, en effet, des intellectuels chrétiens, des étudiants chrétiens. Il y aura Cogève pour Hegel, et Hegel compte énormément pour Corbin, mais aussi Coiré, pour les mêmes raisons. Il y a le milieu de Marbourg, et j'insiste vraiment sur le rapport à Karl Levitt, parce que ça illustre tous les conflits internes aux penseurs chrétiens à ce moment-là, touchant la théologie politique. Je n'ai pas pu en parler ce matin, mais Peterson est un ami de Massignon, le grand adversaire de Schmitt. Corbin connaît toute cette littérature, et Corbin fait aussi partie de ceux qui ne citent pas ce qui compte pour lui, qui rend les choses cryptées. Parmi les personnalités, il y aura un certain nombre d'autres figures, initiatrices, pourrait-on dire, de même qu'on l'a montré pour Corbin touchant Durand. Et ceci, ça fait partie de la plasticité de Corbin, me semble-t-il. De la même manière qu'il y aura des figures iraniennes
Parce qu'enfin, on oublie le rôle de Danesh Pajour, le rôle de grandes figures, d'autres figures iraniennes, le grand commentateur du Coran,
Tabatabai,
etc. Parce que ça ne s'est pas fait tout seul en Iran non plus. Voilà, ça fait partie aussi de sa formation.
Merci. Une autre question? Oui.
Il est intervenu une fois, je crois. Il est intervenu une fois, mais je ne sais pas comment il est arrivé là, par quel intermédiaire.
Personne à des lumières pour ce point précis. Les passions de Pierre Hadot au...
À le néoplatonisme, parce que c'est un des décideurs de Clotaire. Son élève éminent est monsieur Philippe Hoffmann, qui en fait à la cinquième section, et qui a été recteur, enfin, recteur de la cinquième section, il y a quelques années, qui enseigne toujours le néoplatonisme, le mercredi, de 16h à
19h. En plus, on avait l'horaire.
Oui, toujours par rapport aux années 30, je me demandais, vous n'avez pas parlé de la relation avec Berziaïev ou avec la pensée russe. Je ne sais pas si vous êtes capable de dire quelques éléments par rapport à ça.
Je pense que même avec Berziaïev a un rôle dans la pensée ukrainienne, toujours dans le cercle des penseurs, des philosophes, des historiens qui fréquentaient. J'avais des idées, mais pas développées. Que l'histoire...
Dans notre occasion, oui, ok, je pense que ce sujet pour une nouvelle thématique. Y a-t-il d'autres questions? Non, on peut-être rester là pour ces échanges. Donc, nous sommes invités, je crois, à nous retrouver au Mosaïque, au restaurant. Nous avons déjeuné pour un cocktail de fin de journée. Voilà, donc vous avez de l'été.